Bonsoir Pierre, on commence avec la une d'Acharq El-Ouazzat, le journal saoudien publié à Londres. La mère de Christophe Glaize, journaliste sportif condamné à 7 ans de prison en Algérie, eh bien sa mère écrit au président algérien pour demander la grâce de son fils. Et puis toujours à la une d'Acharq El-Ouazzat ce lundi, escalade des tensions entre le Liban et l'Iran. L'Iran résolu à soutenir le Hezbollah, d'où les tensions avec le Liban. On peut même dire « Beyrouth claque la porte à Téhéran ». Ce n'est pas seulement des mots MOTS entre Téhéran et Beyrouth. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères libanais a décliné l'invitation de son homologue iranien Abbas Araghchi à venir à Téhéran. Araghchi insiste et propose une rencontre en terrain neutre. Mais c'est niette. Ce refus n'est pas le caprice du ministre des Affaires étrangères libanais, mais selon une source officielle qui s'exprime au journal saoudien, eh bien c'est une position claire du gouvernement libanais qui exige l'égalité des échanges. Ça veut dire quoi? L'Iran ne peut pas dealer d'un côté, explique la source, avec le gouvernement libanais et de l'autre avec le Hezbollah. Sous couvert d'anonymat, une autre source libanaise explique « La position de l'Iran complique la situation intérieure libanaise et expose le pays à une nouvelle guerre avec Israël. Le Liban ne sera pas un subordonné de Téhéran. » Le président libanais, lui, avait déjà antérieurement refusé une invitation pour rencontrer les leaders iraniens. Le Liban n'a guère apprécié le soutien du Hezbollah au Hamas en octobre 2023. Les autorités iraniennes ne lâchent rien et déclare « Le Hezbollah est fondamental dans sa confrontation au sionisme ». Fin de citation. Les leaders iraniens et guides suprêmes et tous les autres refusent en fait le désarmement du Hezbollah et rejettent les démarches du gouvernement libanais à ce sujet. Autre titre, mais même chanson, le Hamas déclare avoir le droit légitime à être armé. Le héros, lui, qui a désarmé Abondi, le portrait de Ahmed al-Ahmed, eh bien, cet homme qui a fait preuve d'un grand sang-froid et d'un grand courage en arrachant le fusil à l'un des terroristes qui tirait sur les Juifs réunis sur la plage australienne pour célébrer Hanouka. Donc, c'est un acte antisémite pour tout le monde, au moins. Eh bien, est titré, mentionné dans la presse arabe par « Attaque contre une célébration juive ». À aucun moment, j'ai survolé l'ensemble de la presse arabe, il n'est fait mention en fait d'un acte antisémite. Pour Al Jazeera version anglaise, puisque vous savez que Al Jazeera est édité en plusieurs langues, l'attaque de Bondi Beach porte une confusion des lignes dans le débat public. Alors, que faut-il comprendre par confusion des lignes? Eh bien, c'est que on va mettre en avant un acte antisémite découlant en fait du soutien à la cause palestinienne et qu'on va peut-être pointer du doigt les terroristes palestiniens dans cet acte et que donc il va y avoir une confusion. La mémoire collective, toujours avec Al Jazeera, toute une enquête, la mémoire collective palestinienne, c'est la pire récolte des olives, l'impossibilité d'aller vendre l'huile d'olive au marché de Ramallah. C'est une enquête de toute l'équipe du journal Al Jazeera et notamment, il dresse le portrait d'une famille palestinienne qui, pour la première fois, n'a pas d'olive à récolter et qui déclare, le chef de famille, « Nous sommes là depuis 10 000 ans, nous ne partirons pas ». Et puis, dans cette grande enquête, qu'on pourrait presque titrer « La guerre de la récolte des olives », il est mentionné, malheureusement, je dis malheureusement pour ce dont je vais parler, c'est les attaques répétées venues des membres des implantations juives de Cisjordanie. On ne peut pas effectivement les passer sous silence. Et puis nous continuons avec Al-Quds.net, qui est un journal palestinien basé à Gaza et qui publie le communiqué des brigades El-Qassem. Je précise, les brigades El-Qassem, c'est la branche armée du Hamas. Et ce communiqué fait suite donc au fait qu'un des dirigeants, un des derniers dirigeants du Hamas a pu être éliminé par Israël. Alors, ce communiqué fait l'état de tout un catalogue de droits, droit de répondre à l'agression de l'occupation. Ce droit est garanti Alors on peut poser un point d'interrogation. Par qui? Droit de nous défendre par tous les moyens. Et puis nous continuons avec Al-Hadath, qui est un média arabe qui compile les publications de différents médias et qui nous parle d'une enquête il y a 6 ans qui aurait été faite sur le fils du terroriste qui a tiré sur la communauté juive rassemblée pour fêter Hanouka. Et actuellement, il y a une enquête faite par les services de renseignement australiens sur les liens qui pourraient exister entre ces terroristes et l'État islamique. Nous continuons avec Al-Quds Newspaper. Alors, Al-Quds Newspaper, c'est le journal institutionnel palestinien, hein, qui est basé à Jérusalem. Si on veut le comparer, on le compare à Haaretz côté israélien ou au journal Le Monde en France, c'est-à-dire c'est le journal officiel. Lui, il titre Fusillade sur la plage de Bondy. Et puis toujours Al-Quds Newspaper, il nous fait état que les États-Unis interdiraient à Israël de bombarder Beyrouth. Alors en fait, Israël voudrait bombarder Beyrouth, mais voudrait bombarder les installations du Hezbollah là à Beyrouth. Or, les États-Unis expliquent qu'on ne peut pas bombarder les installations du Hezbollah à Beyrouth sans malheureusement faire des éclaboussures à côté et qu'il n'en est pas question. Israël, devant cette interdiction et ce veto américain, se tournerait vers des cibles plus cernées dans le sud du Liban. Et puis nous continuons avec le journal égyptien Hararam Hebdo. Le Croissant Rouge égyptien envoie un convoi d'aide hivernale à Gaza. Je vous rappelle que Gaza est complètement inondée par des pluies torrentielles et que bien évidemment les installations précaires telles que les tentes ne résistent pas et que la population civile malheureusement est totalement inondée et a les pieds dans l'eau jusqu'à mi-genou, voire plus. Et que bien évidemment, les réserves alimentaires sont elles aussi inondées. Le Caire et Riyad soulignent l'urgence, toujours avec Al-Aram Hebdo, d'une force de stabilisation à Gaza au regard de la santé, de la situation. Et d'un autre côté, intensifie aussi la coordination au Soudan. Je répète, hein, depuis quelques semaines, la presse arabe s'intéresse quand même au drame soudanais. Le vendredi 12 décembre, Al-Aram Hebdo titre Gaza, rejet de déportation des Palestiniens. Il s'agit en fait d'une reprise d'un communiqué qui avait déjà été publié le 6 décembre par une coordination des pays arabes, qui cette coordination, c'est la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar. Et ce communiqué mentionnait un rejet absolu de toute tentative d'expulsion des Palestiniens. Il s'agit en fait d'une réaction à l'ouverture unilatérale par Israël de la volonté par Israël de réouvrir le point de Rafah, qui est le point qui permet de partir de Gaza vers l'Égypte. Badr Abdelati, le ministre des Affaires étrangères égyptien, s'exprime dans Al-Aram Hebdo. Il demande l'ouverture de tous les points de passage frontaliers entre Israël et Gaza pour acheminer l'aide humanitaire. Et Rafah, précise-t-il, doit être uniquement pour l'aide humanitaire. Il insiste, pas pour les Gazaouis. Les communiqués de ces différents pays évoquent une volonté urgente de stabilité pour Gaza, de sécurité pour Gaza et de reconstruction de Gaza. Mohamed Eghazi, ex-vice-ministre des Affaires étrangères, s'exprime également dans Hararam Hebdo. Il dénonce la violation par Israël du sommet de Sharm el-Cheikh, du refus par Israël de la mise en place de la seconde phase du plan de paix. Et il insiste sur le fait qu'il ne doit pas y avoir d'ouverture de Rafah, qui en fait impliquerait le déplacement forcé des Palestiniens. Alors là, je me permets un commentaire personnel. Je comprends bien que tous ces pays arabes ont très peur d'un déplacement définitif des populations palestiniennes vers le Caire, mais il faut peut-être aussi comprendre qu'il y a une urgence humanitaire, qu'ils sont en ce moment effectivement dans des conditions de précarité due aux intempéries climatiques et qu'il vaut mieux momentanément qu'ils soient déplacés par le point de Rafah vers des habitations plus résistantes et notamment effectivement peut-être dans des hôtels comme Israël a fait avec les populations du nord et du sud quand elles étaient en danger, en les mettant à l'abri dans des hôtels en Israël. Je pense qu'il ne s'agit pas d'expulsion palestinienne, mais qu'il s'agit de mettre à l'abri les populations de Gaza et qu'il faudrait peut-être que les autorités de ces pays y réfléchissent. Notre revue de presse arabe, Pierre, est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.